la science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans La Science s'amuse, une émission proposée par Divergence FM et l'Université de Montpellier. Et nous en sommes donc à la 3e escale de notre périple à travers les laboratoires de Muse. Jusqu'ici, rien de bien difficile à calculer. Par contre, si je commence à vous parler du pourcentage d'acides gras saturés, de glucides dont sucre, de protéines et de calories pour 100 grammes de produits consommés ou par portion, ça devient vite la mer à boire. Pour simplifier et rendre plus lisible cet étiquetage nutritionnel, nous disposons depuis 2017 du Nutri-Score, un logo à 5 couleurs à poser sur la face avant de l'emballage et permettant de classer sur 5 niveaux allant de A à E la qualité nutritionnelle des produits que vous vous apprêtez à acheter. Une information que l'on savait déjà essentielle, mais qui vient d'être confirmée par une étude publiée le 17 septembre dernier dans le British Medical Journal. Une étude mettant en lien la consommation d'aliments moins bien classés au Nutri-Score et une mortalité accrue. Alors le lien entre nutrition et santé, on en parle avec notre invitée Tasnim Akbarali, chercheuse à l'INSERM et spécialiste en épidémiologie nutritionnelle. Tasnim, bonjour.
Bonjour.
Avec moi, comme chaque semaine, pour dérouler les cordages de cette interview, Aline Perriot. Bonjour Aline.
Bonjour Lucie. Bonjour Tasnim.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous retrouvons bien sûr Amrine Nagamia pour sa chronique Les Vedettes, avant de terminer par notre bouteille à la mer. La science s'amuse, vous avez la carte, c'est parti. Alors Tasnim, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne le Nutri-Score et sur quels critères sont classés les aliments justement ?
Alors bien sûr, avant de rentrer dans la construction en elle-même du Nutri-Score, il faut savoir qu'en recherche, en épidémiologie nutritionnelle, pour pouvoir établir des recommandations alimentaires ou pour pouvoir juger si une alimentation est bonne ou mauvaise, pour évaluer l'impact de l'alimentation sur les risques qu'elle peut faire subir aux populations, on utilise des indices alimentaires qui sont essentiellement basés sur le profil, les compositions en nutriments des aliments qui sont consommés par les participants dans nos études. Et on utilise donc ces scores qu'on établit avec un certain nombre de... Vous disiez en introduction, c'est un peu compliqué les pourcentages. C'est notre métier en épidémiologie nutritionnelle de pouvoir justement quantifier la qualité d'une alimentation. Mais pour pouvoir exporter ces connaissances et pour pouvoir permettre aux citoyens de faire ce choix-là, le Nutri-Score trouve toute son utilité, puisque c'est un score simple, A, B, C, D, E. A, bon aliment, E, moins bon aliment, bien sûr. Et en fait, ce score permet de traduire la qualité nutritionnelle d'un aliment que le consommateur va choisir dans les rayons de son supermarché. Donc, pour faire simple, pour chaque aliment, on réalise un profil de ces nutriments et en fait le Nutri-Score va permettre un résumé de cette information avec une construction qui est, comme vous l'avez dit, pour 100 grammes d'un aliment consommé, on va compter sa composition en énergie, en acides gras saturés, en sucre, en sel, qui sont des produits dont on a montré en épidémiologie nutritionnelle leur effet délétère sur un certain nombre de paramètres de santé. Et puis, on va également compter les nutriments, plutôt positifs, qui ont un effet positif sur les paramètres de santé, à savoir les fruits, les légumes, l'huile d'olive, les fibres et les protéines. Quand on a un A, on a un aliment qui est plutôt nutritionnellement bon, et un E, un aliment qui est nutritionnellement plutôt très mauvais.
Alors, l'étude, elle portait sur plus de 500 000 personnes et elle a montré que ceux qui consomment plus d'aliments, mal notés au Nutri-Score, comme on l'a dit, ont une mortalité plus importante. Mais est-ce qu'on sait de quelle mortalité il s'agit ? Est-ce qu'ils ont plus de cancers, davantage de maladies cardiovasculaires, par exemple ?
Alors, effectivement, 500 000 personnes, un demi-million de personnes suivies pendant 17 ans. Donc, dans cette étude, au bout de 17 ans, en fait, ils ont suivi ce million de personnes avec des questionnaires et ils ont observé 54 000 décès sur 17 ans de suivi. Donc, parmi ces 54 000 décès, on avait des décès dus à des cancers, dus à des maladies, ce qu'on appelle les maladies circulatoires, donc les maladies cardiovasculaires, maladies cardiométaboliques, diabète de type 2, hypertension, enfin, les facteurs de risque cardiovasculaire qu'on connaît bien. Et puis des maladies digestives. Et effectivement, cette étude a montré que lorsqu'on avait une alimentation qui adhérait le mieux à cet étiquetage du Nutri-Score, eh bien, on avait un risque réduit d'avoir une mortalité prématurée due à ces pathologies, cancers, maladies respiratoires, maladies cardiométaboliques et digestives. Pardon.
Vous venez de le dire, donc l'étude elle a suivi une cohorte de personnes pendant 17 ans. Ça semble super long, donc c'est obligatoire en nutrition de suivre les gens sur des périodes aussi longues ou c'est quelque chose qui se fait régulièrement dans d'autres domaines ?
Alors, dans l'équipe à laquelle j'appartiens, à Whitehall notamment, donc une cohorte britannique qui a été initiée par Michael Marmot en 1985, on suit les gens depuis maintenant 30 ans. Alors, ça paraît beaucoup comme ça. On se dit, oh là là, suivre des gens comme ça pendant 30 ans. Mais en fait, en épidémiologie nutritionnelle, c'est quelque chose d'assez courant et je dirais presque de quasi obligatoire. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on regarde l'effet de l'alimentation sur des pathologies chroniques où finalement, quand on les développe, eh bien, on les développe à 60 entre 50 et 70 ans, on va dire que leur prévalence est extrêmement élevée à ce moment-là, mais elles sont dues à l'accumulation d'un certain nombre de facteurs qui s'accumulent tout au long de notre vie. Donc pour comprendre l'impact de l'alimentation, par exemple à l'âge adulte, sur la survenue de ces pathologies ou d'une mortalité, eh bien on comprend qu'il faut suivre les gens assez longtemps. Et en épidémiologie nutritionnelle, quand on veut comparer l'effet d'une bonne alimentation à une mauvaise alimentation sur ces pathologies, eh bien on comprend bien qu'on ne va pas faire comme dans les essais randomisés pharmaceutiques, on va prendre un groupe témoin et un groupe intervention. On comprend bien qu'on ne va pas faire de groupe avec un groupe pizza, un groupe légumes qu'on va suivre pendant 20 ans pour comprendre l'effet de l'alimentation sur une pathologie. Et que donc ce cadre observationnel où on suit les gens pendant longtemps, on recueille de façon répétée leur habitude alimentaire, leur habitude de consommation, eh bien, c'est un cadre observationnel qui mime finalement la vraie vie des personnes et qui permet de catégoriser, de faire des groupes d'exposition pour étudier l'effet de cette exposition justement sur la pathologie.
Et comment vous vous y prenez ? Il y a des questionnaires, vous rencontrez régulièrement les gens, enfin, comment ça se passe sur 17 ans ?
Alors, chaque étude a ensuite sa méthodologie. Mais effectivement, l'idée, c'est aussi tout un pan, finalement, de la recherche en épidémiologie nutritionnelle. C'est comment on recueille de façon robuste les habitudes alimentaires et comment on les traduit en termes de qualité alimentaire. Et donc, pour cela, on a développé des outils, un certain nombre d'outils, comme des questionnaires de fréquence alimentaire. Donc, c'est un tableau avec 60-70 questions, parfois un peu plus, qu'on donne à des participants qui sont dans nos cohortes. Et ces participants, on les suit très régulièrement. Par exemple, dans Whitehall 2, c'était tous les 5 ans. Dans cette cohorte EPIC, c'est des participants qui viennent de plusieurs cohortes et qui sont suivis régulièrement avec les mêmes instruments de mesure au niveau de l'alimentation pour qu'on puisse avoir justement des données qu'on peut comparer les unes avec les autres malgré les différences culturelles d'alimentation.
Alors, donc, moi, j'ai regardé en préparant cette émission chez moi, dans mes placards, et j'ai trouvé très peu de produits, finalement, étiquetés Nutri-Score. Donc, comment ça se fait ? C'est pas obligatoire ? Les industriels jouent pas le jeu
Alors, bon, faut savoir qu'on partait de zéro, quand même.
Hein, c'est vrai.
On partait de zéro, puisqu'il y a encore une vingtaine d'années, vous n'aviez aucune indication sur la qualité de l'aliment que vous pouviez acheter dans un supermarché ou autre. Donc effectivement, on a finalement une hétérogénéité les industriels qui peuvent proposer d'eux-mêmes, parce que c'est une démarche volontaire de se dire on va mettre un Nutri-Score sur un produit, c'est une démarche volontaire. Et c'est finalement aussi tout l'enjeu de pouvoir convaincre les professionnels de l'agroalimentaire de l'utilité de mettre ce score pour pouvoir justement améliorer notre rapport à l'alimentation et leur faire prendre conscience de la nocivité d'un certain nombre de produits, mais également, voilà, donc ça, en fait, je dirais qu'il y a un objectif double. Il y a l'objectif pour le consommateur, pour qu'il puisse acheter en conscience son produit alimentaire, mais également une tentative, je pense, de pouvoir aussi expliquer à un industriel, l'importance de pouvoir vendre des bons produits aux consommateurs. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être effectivement gagnant dans tous les sens du terme.
Et vous nous expliquez donc qu'il y avait plusieurs cohortes suivies pendant des durées longues, donc plusieurs études également. Est-ce que les résultats de cette étude-là sont cohérents avec les recommandations scientifiques et les données des autres travaux issus des autres cohortes sur le lien entre l'alimentation et la santé ?
Tout à fait. Elles sont complètement en cohérence. Donc comme je le disais, le Nutri-Score, c'est... permettre de façon simple de mettre sur un produit une traduction en composition nutritionnelle qui peut être un peu complexe. Donc effectivement, on a maintenant un certain nombre d'études qui ont complètement validé l'effet potentiellement délétère d'une surconsommation en sel, d'une surconsommation en acides gras saturés, d'une surconsommation en sucre sur un certain nombre de paramètres de santé. Donc là, c'est la mortalité parce qu'effectivement, c'est... je dirais, le paramètre, un paramètre marquant de la santé quand on a une mortalité prématurée due à une pathologie, c'est effectivement un paramètre certain sur la santé. Mais effectivement, ces recommandations, en tout cas ce score, est complètement en cohérence avec les différents indices nutritionnels, les différents scores, comme le Alternative Health Eating Index, comme le... Il y a une très grande cohérence et une très grande corrélation entre ces Nutri-Score et l'adhérence au régime méditerranéen, qui est bien connue également.
Et du coup, cette étude-ci, elle parle du lien évident entre santé physique et nutrition. Et de votre côté, vous avez auparavant montré également un lien entre qualité de l'alimentation et santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quel type de pathologie vous avez travaillé et ce que vous avez découvert ?
Alors, initialement, mes recherches portaient sur l'alimentation, la qualité de l'alimentation dans son entier, c'est-à-dire de vraiment différencier cette approche à une approche où on considère qu'un nutriment par nutriment, parce que les nutriments sont très corrélés entre eux. Donc, les premiers travaux ont plutôt porté sur la qualité de l'alimentation et le vieillissement, tous les paramètres associés au vieillissement, donc déclin des performances cognitives, survenue de maladies cardiovasculaires. Et puis, peu à peu, on a souhaité effectivement explorer le lien entre la qualité de l'alimentation et la survenue de dépression. Et en 2009, on a effectivement mis en évidence des relations fortes entre alimentation et survenue de dépression, ce qui était assez nouveau à l'époque, puisqu'on savait qu'une personne dépressive pouvait avoir... une détérioration de la qualité de son alimentation, ça fait partie d'ailleurs de la symptomatologie, mais la relation bidirectionnelle, à savoir que l'alimentation peut permettre de réduire l'incidence de la dépression, c'est un résultat qui était assez innovant et assez nouveau. Donc c'est ce qu'on a montré depuis quelques années.
Alors comment vous l'expliquez justement, ce lien entre nutrition et dépression ? Ça joue sur des mécanismes biologiques ou...
Tout à fait. Alors... on est actuellement en train d'explorer justement les mécanismes biologiques qui permettent d'expliquer cette association entre alimentation et survenue de dépression. La première chose, y a plusieurs pistes de réponse. La première chose, c'est quand on a envie de montrer de façon causale, parce qu'on parle bien de, en épidémiologie, la causalité est, un, est une notion un petit peu compliquée à mettre en évidence. Et quand on a envie de montrer si l'alimentation a réellement un rôle causal sur, un, sur la dépression, ce qu'on a regardé, c'est eh bien, est-ce que l'alimentation a un impact sur les structures cérébrales qui sont impliquées dans la dépression ? Et on a montré qu'effectivement, les personnes qui maintenaient une très bonne alimentation durant leur vie, 15 ans plus tard, montraient des volumes hippocampiques plus larges que ceux qui maintenaient une, que ceux qui avaient une mauvaise alimentation durant leur vie. Donc, premier élément de réponse, effectivement, l'alimentation joue, a un impact sur les structures cérébrales qui sont impliquées dans la dépression. Deuxième élément de réponse, eh bien, avec toutes les recherches maintenant qui sont en lien sur les relations entre intestin, microbiote, cerveau, on sait que l'alimentation eh bien, va modifier de façon substantielle le fonctionnement de notre flore intestinale et notamment va être impliqué dans tous les phénomènes de dysbiose intestinale.
Donc c'est qu'est-ce que c'est les dysbioses ?
C'est en fait une dysbiose, c'est une dérégulation du fonctionnement de la paroi intestinale qui va faire qu'on va avoir, si j'ose le dire comme ça, des trous dans la paroi intestinale qui va entraîner des libérations d'un certain nombre de toxines, de protéines, de molécules pro-inflammatoires et qui vont venir eh bien, affecter nos défenses immunitaires et nos processus inflammatoires. Donc l'alimentation, elle a un rôle central sur les processus inflammatoires et ces processus inflammatoires ont un rôle central dans le développement de la dépression.
Et justement, vous parliez de dysbiose. On parle beaucoup ces derniers temps de microbiote intestinal dans beaucoup de pathologies. En l'occurrence, ça voudrait dire qu'une mauvaise alimentation, ça influerait sur notre microbiote et c'est ça qui augmenterait le risque de dépression ?
Pas seulement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une piste sur le microbiote par rapport à la dépression pour un certain nombre d'autres raisons. C'est qu'effectivement, on a également, on le sait, une communication bidirectionnelle hein, sur les neurones qui sont présents sur la paroi intestinale et nos neurones cérébraux via le nerf vague. Mais on sait également que l'alimentation, eh bien, elle va agir sur un certain nombre d'autres paramètres. Notre niveau, nos capacités antioxydantes, par exemple, pour citer que celle-là. Quand on mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, on apporte à notre organisme beaucoup d'antioxydants qui vont participer à cette réaction inflammatoire.
Et donc, on a parlé de cancer, de maladies cardiovasculaires, de dépression. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de pathologies qui pourraient être liées à la qualité de notre alimentation ?
On pourrait se dire au moins toutes les pathologies qui sont liées aux processus inflammatoires. Or, les processus inflammatoires sont impliqués à peu près dans toutes les pathologies chroniques. On pourrait citer par exemple toutes les pathologies respiratoires. On a maintenant des études qui viennent d'équipes d'épidémiologie respiratoire qui montrent l'impact notamment de la consommation des charcuteries sur la survenue d'asthme.
Et par exemple, sur les dépressions dont on a parlé, est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que vous travaillez, vous, en lien avec les psychiatres ? Parce que, par exemple, si les patients qui souffrent de dépression ne sont pas assez au courant de la qualité de leur alimentation et le rôle que ça peut jouer dans la survenue de la maladie, est-ce que vous êtes en lien avec les psychiatres pour leur dire, eh bien, ce serait bien de donner à vos patients des recommandations nutritionnelles qui aillent dans le bon sens pour leur permettre, justement, de les aider à les accompagner dans la guérison ?
Alors, définitivement pas assez. C'est effectivement la science de la psychiatrie nutritionnelle est une discipline qui a un certain succès, en tout cas en Australie ou en Amérique ou en Angleterre. En France, on a encore du mal à pouvoir fédérer les différents acteurs de soins à ces questions-là. Vous parliez de la psychiatrie, moi j'aurais presque envie de vous dire à l'échelon d'avant, c'est-à-dire au médecin généraliste, aujourd'hui vous avez un diabète de type 2 ou une maladie cardiovasculaire, en tout cas vous êtes à risque de maladie cardiovasculaire, la première chose que va vous demander votre médecin c'est ce que vous mangez. En revanche, aujourd'hui on n'a pas du tout cette approche-là sur les pathologies, sur la santé mentale.
Est-ce qu'on pourrait imaginer justement donc des ordonnances, parce qu'on sait que tout le monde n'a pas accès non plus, en fonction de son niveau social, à une bonne alimentation. Est-ce qu'on ne devrait pas envisager une sorte d'ordonnance nutritionnelle ?
Tout à fait. En fait, pour pouvoir établir une ordonnance, il faut d'abord établir un diagnostic. Donc ce qu'il faudrait, c'est bien sûr des outils qui permettent en 10 minutes, de pouvoir évaluer la qualité de l'alimentation d'une personne en cabinet ou hors cabinet, d'ailleurs, et pouvoir, en cohérence, pouvoir établir effectivement une ordonnance ou en tout cas un conseil nutritionnel très suivi. Et c'est aujourd'hui, je pense, ce qui fait défaut. Et d'ailleurs, un papier du Lancet qui a été publié il y a un an nous montre qu'il y a 11 millions de décès qui pourraient être évités si les gens appliquaient les recommandations alimentaires qui sont existantes et qu'on connaît, qui sont publiées.
Justement, ces grandes recommandations alimentaires qu'on connaît, quels en sont les grands principes ? Comment est-ce qu'il faudrait manger ? Quelles recommandations respecter pour rester en bonne santé physique et mentale ?
Alors, ces recommandations, elles sont nombreuses. Je vais vous en donner... Je vais vous en donner une que j'aime bien utiliser en tout cas dans mes études. C'est des recommandations qui suivent le Alternative Healthy Eating Index, donc des recommandations qui ont été principalement développées par des chercheurs américains. Et on a un score de 100 en fait. Et puis on a dans ce score de 100, il se divise en 9 ou 10 éléments. Et à chaque fois que vous suivez la recommandation alimentaire, vous avez 10 points. Si vous ne la suivez pas, vous avez 0 points. Donc, ce score nous dit, eh bien, quand on mange plus de 5 portions par jour de légumes, 4 portions par jour de fruits, une portion par jour de légumineuses, de légumes secs, plus de 5 fois par jour des portions de céréales complètes, et puis une alimentation riche en acides gras polyinsaturés, l'huile d'olive, l'huile de colza, par exemple, pour ne citer que ces graisses-là, on contribue à avoir un bon score à ce AHEI. En revanche, quand on consomme plus d'une fois par jour des boissons sucrées ou des sodas, plus de deux fois par semaine de la viande rouge ou des charcuteries, quand on a une consommation en acides gras trans, ce sont ces acides gras, ces graisses hydrogénées qu'on voit parfois sur les paquets de biscuits, ou encore une consommation de sel importante, là encore, on va contribuer de façon très négative à ce score. Donc en faisant une moyenne, on peut assez simplement se dire où est-ce qu'on se situe dans ces recommandations alimentaires. J'oubliais quand même un critère important aussi dans ces scores, c'est la consommation d'alcool, qui effectivement contribue... très négativement quand on en consomme de façon non modérée à ce score.
Merci beaucoup Tasnim Akbarali d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les liens utiles sur le site de Divergence. Et c'est maintenant l'heure de descendre en salle des machines. Et aujourd'hui, c'est Stéphane Perret qui nous emmène à Euromov.
Bonjour, donc Stéphane Perret, directeur du centre de recherche Euromove, et j'assure ici donc aussi des travaux de recherche orientés sur la physiologie de l'exercice chez l'homme.
Donc aujourd'hui, on vient visiter une plateforme de simulation.
Oui, vous êtes sur une des plateformes que possède ce centre, notamment la plateforme de simulation du mouvement, dénommée iMove, avec la particularité d'avoir en son centre un robot, un bras articulé. Donc ce robot provient tout simplement de différentes fabrications industrielles qu'on peut retrouver dans l'industrie automobile. Par contre, l'originalité provient de son extrémité distale. Effectivement, vous avez au centre donc le référentiel. Et ensuite, vous avez différents segments qui sont articulés entre eux, un petit peu comme nos flancs d'articulation et entre le bras et l'avant-bras. Et tout au bout, donc à une certaine distance, on peut venir ici mettre différents dispositifs qu'on va pouvoir donc bouger dans un environnement donc qui est assez important. Vous pouvez monter jusqu'à 10 mètres.
Je veux la décrire, la pièce.
C'est un cube assez important qui est à une hauteur d'environ 10 mètres avec une certaine envergure ici de 5 mètres. Et après, on peut, à son extrémité, dès lors que le bras robotisé est en action, vous voyagez tout simplement dans l'espace, dans les trois dimensions et selon les trois orientations.
Il y a une raison pour laquelle tout est noir.
C'est davantage si on doit recréer effectivement des situations avec notamment un environnement, on va dire, virtuel, si on doit projeter différentes images sur l'ensemble du dispositif. C'était un petit peu l'idée d'avoir, essayer d'atténuer en tout cas les contrastes de couleurs. Dans les faits, on utilise davantage d'autres dispositifs de réalité virtuelle directement avec des casques embarqués sur la tête des participants. Nous sommes ici sur un centre basé sur le mouvement, donc notre intérêt premier a été effectivement d'aller développer quelque chose où on va étudier la posture, la personne donc érigée, et notamment lorsqu'elle bouge, notamment en situation de marche. La locomotion humaine, c'est notre objet d'étude premier.
Et depuis quand vous disposez alors de ce simulateur ici sur la plateforme ?
Pour cette plateforme appelée Flying Carpet, ça fait environ 6 mois que celui-ci est fonctionnel.
Alors je vous propose qu'on se rapproche. Donc là, on voit le bras articulé qui fait à peu près 2 mètres de haut. Et au bout, une cage en cordage avec un drôle de sol. Vous pouvez me parler déjà du sol ?
Oui, on peut apercevoir ici un sol avec un certain revêtement un petit peu caoutchouteux avec 2-3 irrégularités. C'est tout simplement un tapis roulant. Un tapis roulant de marche et de course avec la possibilité, bien évidemment, de faire pas mal de choses en termes de terrain varié. Vous pouvez monter, descendre, avoir tout simplement une déclivité sur le côté, droite, gauche. Et vous avez cette cage au pourtour qui permet tout simplement de sécuriser la personne qui sera mise en mouvement, notamment à quelques mètres au-dessus du sol.
Il y a différents capteurs dans cette cage, c'est ça ?
Alors, il y a différents dispositifs qui permettent de collecter des données sur tout simplement la production du mouvement qui est ici piloté, notamment la vitesse de défilement de la bande du tapis roulant, mais aussi après d'avoir des points de repère par l'intermédiaire de différents segments au niveau donc du bras robotisé dans l'espace.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des applications pratiques ?
C'est un outil déjà mis à disposition pour simuler tout type de mouvement avec une certaine précision, l'objectif étant de mieux comprendre notamment les pathologies reliées aux problèmes de transport. Donc on peut manipuler par ce système, ce dispositif, donc les entrées visuelles, mais aussi donc tout simplement les entrées vestibulaires. Le mal des transports, il est surtout aussi connu sur un mouvement qu'on peut avoir sur un bateau. C'est une expertise forte ici au centre Remove, où différents projets de recherche ont été mis en place dans ce sens. On émet un diagnostic dans un premier temps, et par la suite, on essaie de trouver des solutions, des interventions pour corriger ces pathologies en manipulant les sens.
Vous travaillez plutôt avec le monde clinique ?
On a effectivement la particularité de compter des cliniciens dans le domaine de la rééducation, ici, neurologique et locomotrice. Donc on travaille étroitement avec les collègues du CHU de Montpellier à La Péronie. Mais le transfert industriel est aussi envisageable, notamment par des grands groupes, Alstom, vis-à-vis effectivement des rames de tramway, qui peuvent avoir un intérêt à mieux comprendre effectivement pour leurs usagers qu'est-ce qu'il faut adopter comme stratégie à l'amorce d'une station et notamment à son démarrage pour éviter toute forme de chute.
Alors des simulateurs comme ça, il y en a beaucoup en France ?
Alors en France, non. C'est le seul avec une orientation recherche. Il y en a un autre qui existerait, j'ai envie de dire, sur une orientation très très loisir. Par contre, au niveau européen, donc vous en avez effectivement 3. À l'échelle planétaire, vous en avez 5. Retenons que ce dispositif qu'on a devant les yeux, donc celui-ci, par contre, il est unique. D'avoir mis directement un tapis roulant à l'extrémité de ce bras robotisé, ça c'est vraiment un prototype.
Et est-ce qu'on peut parler rapidement alors de ce qu'on voit au fond Donc là, on voit une espèce de capsule avec un siège qui ressemble effectivement à un siège de pilotage, comme un hélicoptère.
Exactement, donc cette première capsule a été développée à l'origine, quand la plateforme a été installée. Vous pouvez voir effectivement un dôme, où on peut avoir ici une projection directement de flux optique, pour visualiser différentes scènes. On a différents scénarios effectivement de démonstration, où on est en train de piloter à un moment donné cet hélicoptère dans une ville. Par contre, d'un point de vue recherche, c'est davantage sur la désorientation spatiale, notamment des différents pilotes, qui a eu des travaux effectivement menés dans le cadre de thèses avec des sociétés partenaires.
Vous êtes toujours sur le 93.9, on passe maintenant à la chronique d'Amrine. Et la vedette du jour est WOOMED, une start-up porteuse d'une innovation qui vise à prévenir la formation des adhérences intra-utérines, qui sont à l'origine de fausses couches et de problèmes de fertilité. C'est bien ça, Amrine ?
Oui, WOOMED est une start-up régionale qui aide les femmes ayant des difficultés à concevoir un enfant du fait d'une mauvaise cicatrisation de l'utérus. En effet, césarienne, curetage, ablation d'un fibrome, révision utérine, les actes chirurgicaux pratiqués sur l'utérus sont nombreux. Des interventions courantes, mais invasives, qui entraînent parfois des problèmes de cicatrisation. Les parois de l'utérus s'accolent entre elles, c'est ce qu'on appelle les adhérences intra-utérines, explique Xavier Garrick, enseignant-chercheur à l'Institut des biomolécules Max Mousseron.
Et ces adhérences, elles ont des répercussions importantes sur la santé et sur la fertilité.
Exactement, elles peuvent entraîner des problèmes d'évacuation des règles, provoquer des douleurs intenses et sont également la première cause mécanique d'infertilité. À ce problème, il n'existait jusqu'aujourd'hui pas ou peu de réponses efficaces, Seul un gel est parfois utilisé pour prévenir l'apparition des adhérences, mais inefficace que dans les 12-24 heures suivant l'intervention chirurgicale. Alors que les adhérences peuvent apparaître jusqu'à 6 jours après l'opération, un résultat peu concluant donc.
Alors cette start-up, elle est née comment ?
C'est en échangeant avec Stéphanie Huberlan, chirurgienne gynécologue au CHU de Nîmes, que l'équipe de Xavier Garrigue a constaté les lacunes dans ce domaine. C'est là que les chimistes sont entrés en piste. Ils conçoivent un dispositif constitué d'une mince feuille d'un nouveau polymère qui, inséré comme un stérilet, se déploie dans l'utérus et agit comme une barrière pour éviter l'accolement de ses parois pendant la cicatrisation. Il devient ensuite un gel qui sera évacué naturellement par voie vaginale.
À l'origine de cette start-up, vous l'avez dit, on trouve Xavier Garrigue, et je suppose qu'il ne l'a pas monté tout seul.
Non, il y a aussi Stéphanie Huberlan, qui est la cofondatrice, ainsi que Gonzague Isenman, entrepreneur dans le domaine de la medtech, ainsi que la SAT AXLR. La société est hébergée à la faculté de pharmacie au sein du département biopolymère artificiel de l'Institut des biomolécules Max Mousseron et compte 4 salariés. Leur succès, ils le doivent bien sûr à cette collaboration entre médecins et chimistes spécialisés dans le développement de nouveaux matériaux. Et l'équipe voit d'ailleurs son innovation distinguée par l'obtention du Grand Prix iLab remis par BPI France et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Alors ce dispositif médical, il est déjà disponible pour les femmes aujourd'hui ?
Non, pas encore. Les premières patientes ont été traitées dans le cadre de l'étude clinique PREG 1 et les résultats sont attendus début 2021. Au total, ce sont à terme près de 150 000 patientes par an qui seraient concernées en France. Ce serait une véritable révolution pour ces femmes.
Merci beaucoup Amrine, on se retrouve donc dans 15 jours pour une prochaine chronique Les Vedettes. La science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil. Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu ?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.